Ici la Voix de la librairie Québec. Mon nom est Catherine Doré et je souhaite la bienvenue aux auditeurs de Radio Fiat Lux et à ceux qui nous écoutent sur les ondes de CKIA le mercredi à 15h30. Nous sommes en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste située au 565 rue Saint-Jean. Au programme de notre émission d'avril, nous parlerons d'astronomie, en particulier de l'histoire de la découverte des planètes de notre système solaire en compagnie de Simon Richard. Il y aura ensuite un entretien avec Madeleine Gauthier, sociologue à l'INRS que j'ai rencontrée la semaine dernière et avec qui j'ai parlé, entre autres, de l'engagement politique des jeunes. Finalement, en compagnie d'Adrien, nous vous ferons connaître un essayiste et chroniqueur français décédé en 2006 et qui a tenté de définir un phénomène de société qu'il a appelé l'homo festivus. Alors, avant de recevoir Simon, on fait une pause musicale, comme d'habitude. On va écouter une pièce qui s'impose pour le premier sujet, soit un extrait de la symphonie « Les planètes » de Gustav Holst et interprété ici par l'Orchestre philharmonique de Berlin. À tout de suite. Bonjour Simon.
Allô.
Simon, la pièce que tu as choisie en introduction de ta chronique, c'est Les planètes de Gustav Holst. Et ça a été écrit, je suis allée vérifier sur Facebook, ça a été écrit en 1914-1916. Et ça fait appel à une imagerie qu'on a de la naissance des planètes qui ne correspond pas tout à fait à la réalité.
Bien, c'est un peu plus explosif que la réalité, effectivement. Mais en fait, là, on s'avance un peu parce que la science planétaire, la formation des planètes est encore vraiment en développement, mais ce qu'on pense, c'est que les planètes se forment vraiment lentement par petits débris qui s'agglutinent entre eux. Fait que c'est loin de l'image d'une grosse explosion.
Probablement que si des musiciens décidaient d'écrire là-dessus aujourd'hui, ça donnerait pas le même résultat.
Peut-être que ça donnerait quelque chose de tellement calme qu'on voudrait pas l'écouter.
Ça aussi. Alors écoute, je te laisse commencer la chronique.
Ben oui, en fait, ce qui m'a fait donner l'idée de la chronique, c'est que la semaine dernière, une équipe de plusieurs savants dans le monde, en fait, c'est souvent ça aujourd'hui, les gros projets d'astronomie, ont découvert une nouvelle planète naine dans le système solaire. Donc, toujours une grosse découverte, une conférence de presse. Toute l'astronomie mondiale était en effervescence mercredi matin quand ça a été annoncé. Tout le monde pensait qu'il y avait peut-être même une nouvelle planète tout court, mais finalement, c'est une planète naine.
Ah, OK.
C'est quand même pas rien non plus, mais bon, ça crée l'émoi.
OK, il va falloir que tu nous expliques tout à l'heure la différence entre une planète et une planète naine.
Oui, je vais faire ça, effectivement.
Est-ce que tu pourrais commencer par nous faire un bref historique, donc, des connaissances qu'on a sur les planètes?
Oui, en gros, les planètes, ça fait quand même, bon, c'est probablement un des premiers objets astronomiques qu'on a remarqué avec les étoiles. Donc, quand on regarde dans le ciel, ben, on voit qu'il y a des étoiles, effectivement, qui ne bougent pas d'année en année, mais il y a aussi des étoiles qui ont l'air vraiment brillantes. Je pense, par exemple, à Mars, à Jupiter, à Vénus, qui, eux, ont l'air de se promener dans le ciel.
Ah oui?
Donc, sous l'espace de peut-être 5-6 jours, on peut voir une différence entre la position d'une planète par rapport aux étoiles fixes. Donc, la planète va avoir changé. Ça a donné le nom, en fait, les Grecs ont donné le nom de planète, justement pour ça, ce qui veut dire « astre errant » en ancien grec.
Ah!
Donc
les planètes bougent.
Les planètes, ben, en fait, vu qu'ils tournent autour du Soleil, nous aussi, ben, leur position dans le ciel va changer comparativement à celle des étoiles.
OK.
Donc ça, c'était connu de la plupart des anciennes civilisations, mais disons que les Grecs ont été vraiment les premiers à les nommer, à vraiment faire une différence marquée entre ces étoiles-là qui bougent, donc les planètes, et les étoiles normales, entre guillemets, si on peut dire, qui sont les étoiles fixes, qui sont les vraies étoiles, finalement, entre guillemets aussi. Donc, ça a été... en fait, ils connaissaient 5 planètes, donc les planètes qu'on peut voir à l'œil nu facilement. Donc, Mercure, qui n'est pas si facile à observer, d'ailleurs, parce qu'elle est très proche du Soleil. Mm-hmm. Vénus, qui est l'étoile du berger, qu'on connaît, qu'on peut voir souvent vers le coucher ou le lever du Soleil. Mars, Jupiter et Saturne, qui sont les 3 planètes brillantes qu'on peut voir aussi assez facilement dans le ciel. En fait, vu qu'elle ne scintille pas comparativement aux étoiles, on peut se dire, OK, c'est probablement une planète, vu que c'est une étoile brillante qui n'est normalement pas là dans le ciel. Donc, ils sont faciles à remarquer, même à l'œil nu, pour les Grecs ou les autres civilisations. Mais il y a eu quand même un bon gap, parce que les autres planètes, donc Uranus, Neptune, et bon, Pluton n'est plus une planète, on en reparlera tout à l'heure, mais Neptune et Uranus sont vraiment, c'est des grosses planètes, mais sont loin, donc sont vraiment dures à observer. Et ça a pris pratiquement 2000 ans avant qu'on réobserve une nouvelle planète, qui était Uranus à l'époque, qui était la première planète découverte à l'aide d'un télescope par William Herschel, qui est un des premiers grands astronomes, grands constructeurs de télescopes. Il faisait ses télescopes lui-même, des télescopes gigantesques à l'époque. Et puis, il a observé en 1781, Uranus. Oui, c'est ça, je cherchais. Uranus, et c'est ça, en fait, pendant longtemps, en fait, c'était tellement pas sûr, parce qu'on n'avait pas redécouvert de planète, fait que tout le monde pensait qu'il y en avait 5
et ça se finissait là. Ça veut dire qu'à partir de l'Antiquité, depuis les Grecs jusqu'en 1781, notre connaissance du système solaire n'a pas changé. On n'a pas fait aucun progrès.
En termes de nombre de planètes, ça n'a pas changé, mais effectivement, il y a eu vraiment plus un... Le développement, c'est pas fait en observation, mais plus en théorie.
OK.
Donc, Ptolémée fait un espèce de modèle géocentrique, plutôt, où tout tourne autour de la Terre, aux alentours des années 300, à peu près, après Jésus-Christ.
La Terre est fixe et les planètes tournent autour. Ce qui est, en fait, une observation un peu plus logique.
Assez logique, oui. Sauf que...
On voit bien le Soleil se lever, tourner.
Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même des petites différences qui étaient dures à expliquer dans le modèle de Ptolémée, mais ça a pris, finalement, Copernic pour... montrer qu'il y a peut-être un autre modèle qui était plus logique pour expliquer ces petites anomalies d'observation-là, notamment que les planètes, parfois, ont l'air de changer de sens de rotation, donc ils bougent plus dans le même sens.
C'est ça qui a donné l'intuition à Copernic?
C'est une des intuitions. Ouais. Il y en a d'autres, là, qui étaient comme de plus de sens. Par exemple, le rasoir d'Occam, en fait, si tu connais le principe.
Oui, je connais le principe, mais on l'explique pour les auditeurs qui connaissent pas.
C'est qu'en fait, si on a à choisir entre deux théories concurrentes qui expliquent les mêmes phénomènes, ben pourquoi choisir la plus compliquée quand on peut choisir la plus simple?
Le rasoir d'Occam, c'est beau, hein?
Le rasoir d'Occam, dans le cas du système planétaire, qui est le nôtre, du système solaire, ben, c'était possiblement de dire que bon, ben, les planètes probablement tournaient autour du Soleil et on était une planète qui tournait nous aussi autour
nous
du
aussi
Soleil.
Nous aussi autour du Soleil. Donc, ça c'était la thèse de Copernic.
Oui, c'est ça. Puis là, ben, il y a eu Tycho Brahe, qui est un observateur danois, qui a fait vraiment des observations super précises aussi. Puis ensuite, il y a eu Galilée, évidemment, qui est le premier à avoir pris une lunette astronomique et l'a tournée vers les astres. Donc, ce qui a fait que c'est, en fait, c'est lui qui a inventé un peu, en quelque sorte, l'astronomie d'observation à l'aide d'un instrument. Puis la première chose qu'il regarde, ou une des premières choses après la Lune, ben, c'est la planète Jupiter. Et puis, il observe les satellites de Jupiter, donc les quatre satellites galiléens qu'on appelle aujourd'hui. C'est les plus gros qui sont autour de Jupiter. Puis ça, il a donné l'intuition que si des satellites peuvent tourner autour d'une autre planète que la nôtre, ben, possiblement qu'on n'est pas tout seul à tourner autour du Soleil. Donc, c'est un peu l'intuition qu'il a donné aussi, qui a raffermi son sentiment vers l'héliocentrisme. Puis bon, ben ça a mené aussi à une mise en demeure. Il est resté chez lui sous ordre du pape pendant...
On connaît l'histoire. Oui,
c'est ça, la bonne histoire de Galilée.
Je ne sais pas si c'est parce que le pape a fait des excuses envers Galilée, genre 10-15 ans, tout à coup, on s'est rappelé de...
Je pense que c'est au début des années 80, en fait. Hein.
C'était au début des années 80, les excuses?
Ouais,
okay,
je ne suis pas sûr, mais
c'est
ça. Okay. Donc, fait qu'en gros, il ne se passe pas grand-chose du point de vue observation jusqu'à 1781, donc l'année où on découvre Uranus. Et puis, un autre truc aussi intéressant, suite à ça, c'est que là la science s'était vraiment améliorée, la mécanique céleste, il y avait eu tous les grands penseurs, Newton était passé, tout ça. Puis on avait vraiment un bon modèle pour expliquer la gravité, pourquoi les planètes tournaient autour du Soleil. Et puis, ben, certains calculs, certaines observations d'Uranus montraient qu'il y avait comme des petites... allait pas exactement où ce qu'on pensait, où ce que les calculs puis le modèle montraient qu'elle devrait être.
Okay.
On s'est dit peut-être qu'il y a une planète encore plus loin qu'on ne peut pas observer parce qu'elle est très peu brillante.
Sur l'idée de l'attraction ou...
Sur l'idée du modèle justement gravitationnel de Newton qui permettait de donner des calculs assez précis de la position des planètes.
Oui.
Et puis ben finalement, c'est Le Verrier et Adams. Voilà, c'est ça, qui ont fait des calculs chacun de leur côté. Et puis ils ont fini par donner, je pense qu'il y aurait une planète qui pourrait être là. Et puis Gall, qui est un astronome allemand à l'époque, réussit finalement à trouver la planète Neptune. Donc c'est... La planète, en fait, a été découverte théoriquement avant de l'être observationnellement.
Avant d'être vue, en fait.
Ouais,
elle a été déduite.
Elle a été déduite de la théorie de Newton.
De Newton, c'est quand même formidable.
Ouais,
et là, on est en quelle année?
Donc, en 1846.
46.
Oui, c'est ça.
OK.
Donc, jusque-là, on a 8 planètes. Au début des années 20, je ne me rappelle pas l'année exacte, mais on découvre Pluton. Mais là, maintenant, on sait que ce n'est plus une planète. Donc, je ne l'ai pas inclus dans mon dénombrement des planètes, mais on va parler tout à l'heure des différences, justement, entre...
Mais avant, je pose la question, je ne sais pas si tu connais les réponses, là, mais quand on a réussi à voir Neptune? Parce qu'en 1846, on a déduit qu'elle existait, mais quand est-ce qu'on a réussi à la voir?
Non, en 1846, c'est au moment où on l'a vue.
Ah, OK.
Oui.
Mais on a déduit avant 1846 qu'elle existait.
Je pense qu'il y a eu comme un petit gap de 2 ou 3 ans entre l'annonce théorique d'une nouvelle planète et la découverte observationnelle d'une nouvelle planète.
OK. Puis Pluton, quand on s'est douté de sa présence, de son existence?
Ben, c'est aussi un peu la même chose qu'on avait vu que, ben là, on était pas mal plus sûr de notre coup parce qu'on avait déjà découvert une planète de cette façon-là. Donc, c'est en étudiant le mouvement de Neptune qu'on a fini par voir qu'il y avait peut-être un petit objet vraiment loin. Mais ça arrive parfois que Neptune a comme Neptune a une trajectoire un peu bizarre, ce qui fait que des fois, elle s'éloigne vraiment beaucoup et qu'elle croise presque Pluton, en fait.
Okay.
Donc, ça peut avoir des petites perturbations. Et puis, ben, c'est Clyde Tombaugh, un nom assez dur à prononcer, qui a trouvé la planète au début des années 20 ou 30. Je ne me rappelle pas exactement.
1930.
Ouais,
OK.
Voilà.
Et Pluton est une planète qui fait partie de notre système solaire jusqu'à récemment, là?
Jusqu'à 2006.
Puis en 2006, on a décidé que Pluton n'était finalement pas une planète.
Oui, c'est ça. En fait...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pluton n'a pas été chanceuse dans tout ce débat-là parce qu'elle n'a rien fait pour mériter ça.
Ben oui, on n'est pas fin avec.
C'est qu'en 2005, et je vais en parler un petit peu tout à l'heure, il y a eu plusieurs découvertes de planètes naines, ce qu'on appelle aujourd'hui des planètes naines, mais à l'époque, on pouvait appeler ça des planètes parce qu'on n'avait pas encore vraiment la nomenclature pour dire c'est une planète ou une planète naine.
Okay.
Donc, en fait, c'est ça, c'est Pluton a écopé de ce débat-là. Donc, on voulait savoir, est-ce que ces objets-là qu'on a trouvés dans le système solaire, qui sont massifs, qui ont à peu près la même taille que Pluton, finalement, est-ce que c'est des nouvelles planètes ou ça n'en est pas?
Okay.
Donc, en plus, on en trouvait partout dans des nouvelles exoplanètes ou en dehors du système solaire, des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles. Et puis là, ben, l'Union astronomique internationale, qui se réunit chaque année dans plusieurs congrès, a fait un gros congrès pour discuter du sort de Pluton et des autres objets. Et puis, bon, ben, c'est Pluton qui a écopé tout ça parce que finalement, on a décidé que plutôt que de rajouter plusieurs planètes et de faire que mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète, blablabla, bla, 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 ben, on a décidé plutôt d'enlever le P à la fin de la phrase. Donc, ça a donné que Pluton n'est plus une planète, mais est devenu une planète naine, comme les quatre autres qui l'accompagnent.
OK. Et là, moi, j'ai pas compris encore, là, c'est quoi la différence entre une planète puis une planète naine?
Ouais, il y a plusieurs critères qui vont faire que, on va dire, cet objet-là, c'est une planète et non pas un astéroïde ou autre. Donc, premièrement, il faut que la planète ou l'objet soit assez massif pour être assez rond. En fait, il faut que les particules qui sont agrégées pour la former aient suffisamment de masse pour que la planète soit comme un peu arrondie d'elle-même sur son propre poids. Faut qu'elle tourne autour du Soleil. Bon, ça, c'est. Faut pas qu'elle tourne autour d'une autre planète, par exemple. Ce serait pas une planète, ce serait un satellite dans ce cas-là.
Excuse-moi, il faut qu'elle soit arrondie d'elle-même.
Oui, il faut qu'elle ait. Ben, pas complètement sphérique, mais on recherche un objet qui va être assez sphérique. Donc.
Pourquoi ce critère-là est plus important que.
Ben, en fait, c'est le critère qui permet de différencier entre une planète naine, une planète et un astéroïde. Souvent, les astéroïdes vont avoir l'air d'une grosse patate. Donc, tout déformé, parce qu'ils sont pas assez lourds pour s'être arrondis avec le temps. Donc, c'est une preuve d'ancienneté, un peu.
Oui.
Ça montre que l'objet est assez vieux, qui s'est formé pas longtemps après la formation de l'étoile, justement.
C'est pas un truc qui vient de se détacher d'un autre masse.
Non, c'est ça. C'est pas un bout de planète qui flotte bizarrement dans l'espace.
C'est ça.
Il y a ça. Il y a le quatrième critère. Je vais garder le troisième pour la fin parce que c'est comme lui qui différencie Pluton des autres planètes.
Okay.
Le quatrième critère, en fait, c'est que. Il faut pas que ça soit un satellite naturel. Comme je l'ai dit, il faut pas qu'elle tourne autour d'une autre planète. Il faut qu'elle tourne autour directement du Soleil. Et le troisième critère, c'est que. Encore là, c'est une question d'ancienneté. Il faut que la planète ait tourné suffisamment longtemps autour de son étoile pour avoir agglutiné tous les petits bouts de matière qui auraient pu être sur sa trajectoire.
Okay.
Donc, ça fait que la planète, en fait, n'a plus rien qui tourne autour, ce qui la différencie aussi des objets, comme par exemple Cérès, qui est une planète naine aussi, comme Pluton, qui, elle, est dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, elle ne s'est pas départagée de ses petits congénères qui flottent autour d'elle. Ça fait pas assez longtemps qu'elle existe.
C'est comme s'il y avait un critère d'ancienneté.
Oui, un peu. Donc, Pluton, elle n'est pas majeure et vaccinée.
Okay.
Donc, elle va passer un peu ce critère-là.
Pourquoi il y a un critère d'ancienneté comme ça? Pourquoi?
En fait, c'est pour pouvoir mettre une barre claire. Parce que, présentement, on a trouvé à peu près 1000, au-dessus de 1000 exoplanètes. Donc, plus on en trouve, plus on va avoir des critères pour dire, OK, c'est une planète, c'est pas une planète, tout ça. Puis ça fait. En fait. Souvent, l'astronomie d'observation, c'est un peu comme la zoologie. Il faut mettre des critères pour différencier les espèces, finalement.
Okay.
C'est juste une question pour établir une façon de travailler.
C'est des catégories, là.
Plus qu'autre chose. Ça ne change rien, justement. Pluton est resté Pluton. Elle n'a pas changé de forme lorsqu'on l'a renommée planète naine.
Okay.
Que ça permet de catégoriser un peu mieux puis de planifier un peu mieux la science qu'on veut faire en termes de ce qu'on veut découvrir de nouveau.
OK. Et il y a combien de planètes naines dans notre système solaire?
Il y en avait 5 jusqu'à la semaine passée.
Okay.
Donc, il y a Cérès qui est dans la ceinture d'astéroïdes, la ceinture qui est entre Mars et Jupiter. Il y a Oméa. Là, j'ai besoin de mes feuilles parce que je connais pas par cœur.
C'est des beaux noms.
Il y a Oméa, il y a Makemake et Eris.
Okay.
Ce sont trois planètes qu'on a découvertes dans la ceinture d'astéroïdes de Kuiper. Donc, c'est la ceinture qui est à l'extérieur de Pluton, qui est vraiment loin de nous. Puis on a trouvé ces trois objets-là pratiquement en même temps en 2005. C'est ça
c'est récent, ces découvertes-là.
Oui,
là.
Donc, Cérès en 1801, donc ça est vieux parce que c'est proche, c'est entre Mars et Jupiter. Donc, on voit que c'est déjà beaucoup plus proche. Mais les trois autres ont été découverts pratiquement par la même équipe.
Mais là, 1801, elle commence à avoir une certaine ancienneté, Cérès.
Oui, mais on parle de millions d'années dans ce cas-là. On parle de centaines d'années,
Ça compte pas, ça.
C'est une planète, c'est l'inverse d'un chat. Une année, ça compte pas pour 7 ans, ça compte pour une seconde dans l'âge d'un être humain. Oméa, Makemake et Eris ont été découverts pratiquement en même temps en 2005.
Okay.
En fait, c'est ça qui a relancé tout le débat qui a fait Pluton est devenu une planète naine. Parce qu'en 2006, on a fait le grand débat à l'IAU. J'ai d'ailleurs un ami qui assistait au débat, qui s'était fait payer une bourse pour aller assister au débat, puis rencontrer plein d'astronomes, puis d'autres conférences, évidemment. C'était pas juste ça, le sujet du meeting, mais apparemment que c'était bouillant comme discussion. Il y avait vraiment...
Qu'est-ce qui fait qu'en 2005, tout à coup, on s'est mis à découvrir plein d'objets astronomiques comme ça? Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie qui est apparue?
Oui, en fait, c'est un nouvel appareil. C'est une caméra qui est faite pour détecter les infrarouges, donc la lumière des objets, qui n'est pas assez encore chaud pour être visible à l'œil nu, mais juste assez pour pouvoir être vu qu'une caméra infrarouge qui est faite spécialement pour l'astronomie, qui a été développée à Caltech. Et puis, en fait, c'est ça, la découverte des trois planètes vient d'une équipe de Caltech ou à peu près. Donc, ils avaient fait le bon instrument. Et souvent, quand on développe un instrument, on a comme la priorité pendant quelques années pour se servir de l'instrument. Bon, ben les chanceux, c'est eux qui avaient la priorité, puis qui ont trouvé les trois planètes.
OK.
Et puis, Pluton, c'est une planète naine.
Et c'est là que tout à coup, on s'est rendu compte que Pluton n'était pas la seule de son espèce.
Voilà,
et
ben,
par conséquent, il fallait soit ajouter 5 nouvelles planètes au système solaire ou décider que Pluton n'était pas une planète.
Ou les soustraire. Donc, c'est ça. Puis finalement, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est Pluton qui est écopé. Et puis, la semaine dernière, on a fait une nouvelle découverte qui n'est pas. Qui n'est pas par la même équipe cette fois-là, qui est une autre équipe. Il y a un gars de Carnegie qui a un institut d'astronomie assez réputé aussi. Et puis, ils ont trouvé la planète qui a le nom de code suivant. Elle n'a pas vraiment été nommée encore. La découverte est trop récente. Donc, son nom de code, c'est 2012-VP-113.
C'est très, très, très romantique.
Oui, très romantique. C'est une planète naine aussi. En fait, là, l'image qu'on a est vraiment très, très, très brouillée encore. C'est vraiment une découverte très préliminaire. C'est le premier papier qui vient de sortir. Donc, on va avoir plusieurs articles qui vont être sur le sujet dans les prochains mois ou années. Et puis, contrairement aux autres qui sont dans la ceinture de Kuiper, elle se situerait dans le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort, c'est un peu comme... C'est de là où viendraient les comètes. Donc, c'est comme un gros nuage de matière gelée qui tourne autour du système solaire vraiment loin.
OK.
Donc, c'est vraiment le confin du système solaire. Passer ça, on pourrait... En fait, l'extrémité extérieure du nuage d'Oort, on peut pratiquement dire que ça ne fait plus vraiment partie du système solaire, étant donné que les étoiles proches ont une influence gravitationnelle sur elles. Donc, le Soleil n'est plus la seule chose qui les fait bouger. Donc, c'est un peu ça qui délimite un peu le système solaire.
Les limites de notre système
extérieur du système solaire. Et puis, cette planète-là serait là-dedans. Et les astronomes ont dit 80 unités astronomiques. Donc, ça veut dire qu'elle est 80 fois plus loin que la Terre du Soleil. Donc,
c'est quand même très loin.
Donc, si on veut faire un voyage là, les Russes auront à faire une télé-réalité qui durera environ 50 ans. Donc, ça prend un bon public pour maintenir en haleine. Ça prend un bon maître de jeu là, pour maintenir en haleine un public pendant 50 ans avec du monde enfermé dans un entrepôt. Mais.
On fait référence à télé-réalité Mars.
Quelque chose qui essaie de
d'attirer des téléspectateurs, en tout cas.
De faire de l'argent sur la crédibilité scientifique des gens, c'est ça. Et puis, cette planète-là, en fait, là, on ne sait pas encore grand-chose sur elle. Sauf que, avec les premières informations qu'on a glanées, avec les premières observations, on pense qu'il y aurait peut-être des objets aussi massifs que celle-là encore qu'on n'aurait pas vu, et potentiellement même des planètes de l'ordre de la Terre ou de Mars. Dans ce nuage-là. Sauf que c'est tellement loin et les planètes rendues là, ils ne réfléchissent plus vraiment à la lumière du Soleil. C'est super dur. En fait, on peut juste les observer par leur chaleur interne, le petit peu qu'ils peuvent dégager par-dessus la température ambiante de l'univers, finalement. Fait qu'il y a encore plein de découvertes à faire, je pense, dans ce domaine-là, justement, de planètes très, très éloignées, dures à observer, mais qui sont potentiellement encore dans le système solaire.
Là, je suis vraiment une néophyte. Je pose une question de néophyte. Ces planètes-là, donc, si elles sont dans notre système solaire, c'est qu'elles tournent autour du Soleil.
Oui.
Est-ce que tout le nuage au complet tourne en même temps que la planète, là? Parce qu'ils sont comme dans un nuage, tu m'as dit?
Oui, mais potentiellement que le nuage... En fait, je sais pas quelle épaisseur le nuage a. C'est comme une espèce d'anneau concentrique autour du système solaire. En fait, si on veut faire une espèce de classification par zone, il y a la zone intérieure qui est les planètes rocheuses, par exemple Mercure, Vénus, la Terre, j'allais l'oublier, et Mars. Donc ça, c'est la zone intérieure. Il y a la ceinture d'astéroïdes, où il y a Cérès, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la première planète naine qu'on a découverte, même avant Pluton, d'ailleurs.
Oui.
On ne savait pas à ce moment-là. Ensuite, il y a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont les géantes gazeuses, qui sont comme la zone un peu externe des planètes véritables et non pas des planètes naines. Ensuite, il y a les objets qu'on appelle transneptuniens, qui sont les objets qui sont plus loin que Neptune. Donc, Pluton en fait partie. La ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. La ceinture de Kuiper, c'est une ceinture d'astéroïdes un peu comme celle qui est plus proche de nous, qui est entre Mars et Jupiter. Mais elle, on connaît moins de choses sur elle parce que justement, on n'a pas vraiment envoyé de sonde facilement. En fait, on n'a pas envoyé de sonde vraiment pour l'observer. Tandis que la ceinture d'astéroïdes, à chaque fois qu'on envoie une mission, par exemple, les missions Voyager ont passé au travers ou à peu près. Donc, on a plus d'informations. Puis le nuage d'Oort, c'est vraiment l'extrémité. En fait, Voyager 1 a dépassé le nuage d'Oort il n'y a pas longtemps. Mais Voyager 1, C'est fascinant comme truc, mais là...
Oui, c'est vertigineux.
Mais les instruments font plus grand-chose. Ils sont un peu passés date. C'est l'équivalent d'avoir une calculatrice dans un bolide allant à 17 000 km/h. On ne peut pas vraiment avoir d'informations. On sait qu'elle est passée au travers, mais on sait pas, on n'a pas vraiment pu avoir beaucoup d'informations grâce à ça. Donc, c'est encore très mystérieux. Puis là, ben, on commence justement à pouvoir... Cette première découverte-là commence à montrer que... La science actuelle, l'astronomie actuelle est rendue à ce point-là, pouvoir distinguer des objets hyper petits, hyper peu lumineux et vraiment loin pour ce qu'on devrait pouvoir observer finalement. Oui. Donc là, on est vraiment à cette frontière-là, puis peut-être que bientôt, on va pouvoir observer des planètes directement, donc par photo direct de d'autres étoiles finalement, parce qu'on est comme rendu là, je pense. Là.
Il nous reste peut-être une minute, bon, 30 secondes. En concluant, qu'est-ce que ça signifie une découverte comme ça pour ton domaine de recherche? Parce que c'est quand même exceptionnel comme découverte, j'imagine. Est-ce que c'est important?
Ben, c'est important parce que cette découverte-là, en fait, permet de raffiner les techniques pour justement observer des planètes encore plus loin que ceux-là. Donc, c'est comme vraiment un pas de départ. Ce serait faut dire ça, c'est un pas de milieu. Donc, pas un pas de fin, mais pas un pas de départ. Donc, pour aller vers la direction d'observer des planètes, exoplanètes, finalement. Et même d'autres choses, parce que d'avoir un instrument qui fait de l'infrarouge et qui est aussi précis que ça, permet aussi d'observer, par exemple, du gaz ou de la poussière qui est vraiment plus loin. Donc, on ne voit plus de planètes dans ce cas-là, mais qui est vraiment difficile à observer. Et avec ce genre d'instrument-là, on observe pas juste des planètes, on peut observer vraiment n'importe quoi, mais c'est de pouvoir observer une planète et d'avoir vraiment comme... Un but précis amène des nouvelles techniques pour observer encore plus loin et encore mieux, finalement.
Ben merci beaucoup, Simon. Ouais, on te réinvitera la prochaine fois qu'on aura des nouvelles découvertes.
Une autre planète, peut-être, dans quelques mois.
On ne sait jamais. Alors, on va faire une pause musicale. On va permettre à CKA de diffuser ses publicités et indicatifs. On vous revient donc dans 3 minutes.
Depuis qu'on a fait la bombe,
Madeleine Gauthier est professeure honoraire au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS, ici même à Québec. Elle a pris sa retraite il y a 3 ans, mais elle continue de s'intéresser à la recherche. Mais elle continue à s'intéresser à la recherche qualitative et à poursuivre son enquête sur les jeunes, sur ce qu'ils vivent et sur leurs aspirations. Je l'ai rencontrée la semaine dernière alors qu'elle était de passage à l'Université Laval à l'occasion d'une conférence qu'elle donnait sur les jeunes et l'action politique. J'en ai donc profité pour l'interroger sur l'implication politique des jeunes à l'approche des prochaines élections provinciales. Nous avons aussi parlé de sa carrière et de ses intérêts de recherche. On l'écoute. Madeleine Gauthier, vous êtes professeure et sociologue depuis environ une trentaine d'années. Vous avez travaillé sur différents sujets. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui vous a attiré davantage dans vos recherches?
Je dois d'abord dire que lorsque j'ai commencé à travailler à plein temps, à temps plein comme sociologue, c'était à l'Institut québécois de recherche sur la culture, et c'est dans un contexte bien particulier. C'est dans les années 80, au moment où il y avait une crise économique très importante liée à la crise du pétrole.
Oui, et la fin des Trente Glorieuses, on commençait une nouvelle ère économique. Là.
Tout à fait. Et les jeunes ont été, les jeunes et les chômeurs âgés, ont été les victimes, les premières victimes de cette crise-là. Oui. Les jeunes mettaient beaucoup de temps avant de trouver un emploi ou encore avant d'avoir un peu de stabilité en emploi. Oui. Et moins on était scolarisés, pire c'était. Et à ce moment-là, le directeur, qui était Fernand Dumont, m'a dit « il faut absolument s'intéresser à ce qui se passe chez les jeunes. »
Oui.
Parce que là, c'était vraiment l'inverse de ce qui s'était passé dans les années 60-70, où l'avenir était ensoleillé parce que nous étions dans un Québec en plein développement, en pleine ce qu'on a appelé par la suite la Révolution tranquille. Il y avait des emplois qui s'ouvraient dans la fonction publique, dans tout, que ce soit le système de santé, le système d'éducation, dans tous les domaines de la vie en société. Alors là, dans ces années-là, c'est le ressac.
Oui. Et c'est un traumatisme pour les jeunes de cette génération-là.
Oui, pour ceux qui arrivaient, c'était absolument traumatisant. Et je me souviens avoir fait une enquête par entrevue et les jeunes me disaient « j'attends ». Le mot « j'attends » revenait à peu près à toutes les 5 minutes. C'était « j'attends une réponse d'un CV que j'ai envoyé, j'attends un téléphone d'un employeur, j'attends des informations, j'attends ».
C'est très intéressant ce que vous me dites là, parce que moi, je fais partie aussi de cette génération-là et je me disais « je continue mes études en attendant ».
Bon, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait en attendant?
Oui, c'est ça.
Alors là, il y en a qui disaient, ben moi, là, préparer mon CV et envoyer mon CV, c'est une job à plein temps. Il y en a qui me disaient, j'ai envoyé 200 CV et je n'ai eu aucune réponse. Alors, c'était un mur, hein? Il frappait un mur.
Donc, je comprends bien, vos premiers intérêts de recherche ont été vers le phénomène du chômage chez les jeunes dans les années 80. Okay. Et ensuite, vous avez approfondi celle de la question des jeunes?
C'est que j'ai toujours continué après à travailler sur les jeunes. Ça a été comme le début d'une carrière qui n'était pas prévue dans cette perspective-là. Je n'avais pas une formation, c'est-à-dire que j'avais déjà fait des sciences de l'éducation, mais ça n'était pas en vue d'une formation de chercheur et ça n'était pas centré sur la jeunesse.
Okay.
Et parce que à partir de ce moment-là, c'est là qu'on s'est rendu compte que la jeunesse devenait une période importante de la vie. Alors, ce n'était pas important seulement parce que pour ceux qui poursuivaient des études, qui étaient quand même dans les années 60 la minorité, hein, les femmes qui allaient à l'université dans les années 60 étaient 4 à 5 % de la population de, qui avait 20 ans là, dans la vingtaine là. Alors, vous voyez le chemin parcouru.
C'est intéressant de voir ces chiffres-là. Aujourd'hui, on sait qu'elles forment plus de 50 % de la clientèle étudiante, mais vous dites que dans les années 60, c'était 4 à 5
% 4 à 5 % oui, absolument.
Oui, c'est assez impressionnant.
Absolument, il n'y en avait à peu près pas. C'était des originales qui allaient en médecine, et même les facultés de médecine n'hésitaient
à
les accepter parce que il y avait encore cette représentation du rôle de la femme. Que lorsque tu as un enfant, tu cesses, tu quittes l'emploi. Donc, faire de grandes études de médecine pour qu'il ait quitté un an après le mariage, il y avait encore cette représentation-là de... c'est sûr qu'on était loin aussi de la conciliation travail-famille. On était à des lunes, lunes de ça.
Il n'y avait pas de garderie non plus.
Non, non, non. Alors, cette représentation-là des années 80, elle atteignait non seulement les jeunes qui étaient réellement les victimes de la crise, mais elle atteignait tout le monde parce que tout le monde pouvait avoir peur en quittant les études, par exemple, de ne pas trouver d'emploi ou de ne pas trouver d'emploi en lien avec sa formation. Alors, parce que la relation formation-emploi apparaissait tellement quand tu étudies, tu fais 3 ans, 4 ans d'université ou que tu fais un cégep, tu t'attends à avoir un emploi dans la...
Dans le domaine
dans lequel
on a étudié.
Dans lequel tu as étudié.
Oui.
Alors, tout le monde avait cette crainte, même si tout le monde n'en était pas atteint comme des animaux malades
comme
de la peste.
Peste.
Alors, ça a fait une génération, ça a créé une génération amère, d'une certaine façon, mais qui a poussé qui a donné une certaine valorisation à l'éducation que peut-être on ne retrouve pas assez aujourd'hui. Ça, c'est peut-être le mouvement du balancier.
Oui.
C'est qu'à ce moment-là, on se disait, pour vous sortir de ce pétrin-là, il faut étudier. On s'en va vers une société
du savoir qui
va exiger de plus en plus d'études. Alors, il y a
Donc, pour se sauver du chômage, de ce chômage-là qui était très élevé, c'était d'aller chercher plus de diplômes.
Plus de diplômes, c'est ça. Alors, ça avait deux fonctions. Les critiques disaient, c'est ça, on les envoie aux études, ils ne coûtent pas cher pendant ce temps-là.
Oui.
On ne paie pas d'assurance chômage ou d'assistance sociale.
Puis en même temps, ça coûtait pas trop cher d'étudier non plus pour les jeunes.
Ça coûtait pas trop cher d'étudier pour les jeunes parce que finir un secondaire, c'est bon. L'éducation était gratuite.
Oui.
Alors, il y a eu une certaine valorisation de la formation pendant ces années-là. Et finalement, je sais pas si je dois, j'ai continué à m'intéresser au cheminement de cette cohorte-là.
De cette cohorte-là.
Okay. Oui. Alors, dans les années 80, dans les années plus tard, là, vers dans les années 90, une dizaine d'années peut-être après, j'ai eu la possibilité de travailler avec certaines enquêtes de Statistique Canada sur le travail et à pouvoir faire des analyses qui montraient que ceux qui avaient eu 20 ans auparavant, si on les fait vieillir de 20 ans à 30 ans, ils sont en emploi. La situation n'était pas aussi catastrophique. La seule chose, c'est qu'ils ont peut-être commencé à gagner un peu plus tard, qu'ils ont peut-être trouvé, ils ont certainement trouvé des emplois différents de ceux qui sont entrés en emploi dans les glorieuses, dans les années glorieuses.
Oui.
Et souvent des emplois moins bien protégés hein, par la syndicalisation ou des emplois comme travailleurs autonomes. Et avant que le travail autonome soit encadré encore là par une législation, ça a mis un certain nombre d'années. Hein?
C'était... Et si je comprends bien, c'est que les travaux que vous avez faits vous ont permis de vérifier que cette génération X qu'on a appelée la génération sacrifiée, finalement, n'a pas été si sacrifiée qu'on peut le croire.
Non, parce que en même temps, l'État mettait en place toutes sortes de systèmes d'aide qui ont favorisé. On a juste à penser au système de garde, par exemple. Bon, ce système de garde, je ne saurais pas dire par cœur combien. Depuis combien d'années?
D'années, ça existe, oui.
La création, là.
Ça devrait être des années 90,
oui,
je
oui,
pense.
Oui, c'est en quelque part dans ces années-là. Et là, le couple, ça a été une façon aussi de répondre à ces difficultés-là. S'il y en a un qui a de la difficulté à se trouver un emploi, que l'autre en trouve un, bon. Alors, c'est là que le travail a commencé à... On a commencé à voir le travail comme étant le appartenant aux deux.
Oui, c'est ça. C'est la première génération d'hommes et de femmes qui avaient des parcours de vie similaires.
Oui.
Alors qu'avant, la vie d'un homme et la vie d'une femme, il n'y avait aucun lien, là.
Oui, oui. Et qu'on a commencé à accorder des congés de maternité. Alors, toute l'aide sociale, dans le fond, cette génération-là en a profité, alors que la génération antérieure n'a pas profité de ça. Moi, j'appartiens à la génération antérieure. Mm. Moi, les congés de maternité...
ça faisait pas partie du plan de match.
Alors, c'est pour ça que j'ai continué de m'intéresser à l'insertion... l'insertion professionnelle. M'intéressant à l'insertion professionnelle et à la formation, et j'ai commencé à développer, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais une sociologie de la jeunesse. Regarder cet âge-là de la vie par rapport aux autres âges de la vie. Okay. Avoir cet âge-là de la vie non pas comme l'antichambre de la vie adulte, mais comme une période qui a ses caractéristiques propres. Ce que Olivier Galland, le sociologue Olivier Galland, par exemple, a appelé les transitions.
Okay,
les
oui.
transitions vers la vie adulte.
Oui.
Alors, c'est l'âge où tout se passe. Tout se passe. La fin des études, l'entrée sur le marché du travail, la formation du couple, de la famille, l'habitation autonome, le droit de vote.
Donc, c'est un âge où on crée son identité aussi.
Oui, oui. Absolument.
On va y revenir à l'identité. Il y a un point sur lequel je sais absolument dont on parle. C'est vous avez surtout fait de la recherche de type qualitative, si je ne me trompe. En sciences humaines, la recherche qualitative, a un rôle majeur dont on parle peu parce qu'on vit dans un monde où tout est statistique, tout est mathématique. J'aimerais que vous me parliez du rôle spécifique de la recherche qualitative en sciences humaines. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on fait du qualitatif?
Oui, j'ai fait les deux, mais j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas faire de statistiques si on n'avait pas d'abord fait une enquête qualitative. Mm. Parce que qu'est-ce que ça nous dit, les statistiques? Ça nous dit combien il y a de personnes qui font ceci ou qui ont tel profil ou qui font cela.
Oui.
Mais comment on peut savoir quelles questions poser pour savoir c'est quoi le profil, c'est quoi la réalité? C'est par le qualitatif.
Le qualitatif, dans le fond, nous annonce certains mouvements de société dont on ne se douterait pas.
Et je pourrais vous donner des exemples.
S'il vous plaît.
J'ai travaillé beaucoup sur la question de la migration des jeunes. qu'on appelle migration aujourd'hui, qu'on n'appelle plus exode. Mais je pense que le groupe de recherche avec lequel j'ai travaillé, où il y avait des représentants dans toutes les universités du Québec, toutes les régions où il y a des universités, je pense qu'on a beaucoup contribué à changer l'image des jeunes qui partent des régions.
Oui.
Alors, c'est par le qualitatif qu'on est arrivé à changer ça. On s'est rendu compte en faisant des entrevues qu'il y avait des jeunes qui pleuraient
en quittant,
en disant, ben moi, si je veux faire des études de droit, je peux pas faire ça à Rouyn-Noranda.
Oui.
Faut que j'aille à Montréal ou à Québec. Même, je peux pas faire ça à Trois-Rivières. Bon, et d'autres qui nous disaient, ben moi, tu sais, je suis revenue, hein, j'ai été faire mon cours d'infirmière à tel endroit, puis là, je suis revenue travailler chez nous. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le départ des jeunes des régions, le phénomène démographique, n'était pas un phénomène d'exode, mais était tout simplement un phénomène de migration pour
les études.
Oui. Et que là, les politiques allaient dans le sens de la rétention.
Oui.
Mais on a fini par dire aux politiciens, à ceux qui font les politiques, on ne retient pas une fille de 18 ans qui va aller étudier en médecine. On ne la retient pas à Rouyn-Noranda. Mais gardons-la en lien avec l'hôpital de Rouyn-Noranda.
Oui.
Parce que peut-être qu'elle pourrait revenir comme médecin à Rouyn-Noranda. Alors, tout le mouvement Place aux jeunes s'est beaucoup inspiré des travaux de cette enquête-là qui a débouché sur du quantitatif parce que on a voulu mesurer, on a voulu vérifier. On a voulu vérifier si c'était vrai que les jeunes ne partaient pas parce que ils n'aimaient pas leur région ou ils n'avaient pas d'emploi dans leur région, mais pourquoi les jeunes partaient réellement de leur région. Et c'est sûr que parmi les questions, nous, on a mis la question des études parce qu'on le savait par le qualitatif qu'il fallait qu'on la pose, cette question-là. Pourquoi vous partez? Il fallait que ça fasse partie des choix. Et c'était un des choix principaux. Comme autre choix, il disait, ben pour aller faire ma vie. Pour aller faire ma vie, ça ne veut pas dire, parce que toutes les questions qu'on posait sur leur représentation de leur région d'origine, il y en avait très peu qui étaient négatives.
Mm.
Ils ne partaient pas pour abandonner quelque chose, ils partaient pour aller chercher quelque chose et avec la possibilité de revenir. Alors, ça, je pourrais vous en donner d'autres exemples du qualitatif. Oui.
Vous êtes une spécialiste, donc vous vous êtes intéressée surtout à la cohorte des jeunes.
Oui.
Donc, vous avez construit une sociologie de la jeunesse. On parle beaucoup, on entend souvent dire que les jeunes sont apathiques, ne s'engagent pas, ne s'intéressent pas à la politique. Qu'est-ce que vous avez constaté quant à l'engagement politique des jeunes?
Ben encore là, j'ai fait à la fois, je suis allée puiser dans les enquêtes. On peut pas faire l'économie de regarder, par exemple, les statistiques électorales.
Hein? Oui.
Quand on dit ça, c'est beaucoup en rapport avec le vote. Les jeunes se présentent, c'est pas possible, les jeunes ne votent plus, on s'en va où dans notre démocratie, bon, etc.
La démocratie est en danger.
La démocratie est en danger. Alors, ce que j'ai fait, d'abord, regarder les statistiques pour me rendre compte que c'est tout à fait inégal. Les jeunes votent moins, peut-être. C'est une constante là, partout. Là, quand on fait la comparaison, que ce soit en Europe, que ce soit dans le reste du Canada, les 18-24 ans se rendent moins aux urnes que les autres groupes d'âge.
Oui.
Mais il y a toutes sortes d'analyses qu'on peut faire, d'explications qu'on peut donner. Les jeunes sont loin d'abord des réalités. Ils ont pu quitter leur domicile d'origine. À ce moment-là, ils ne sont pas ancrés, disons intégrés dans le lieu où ils pourraient voter.
Parce que moi, instinctivement, comme ça, pour les quelques discussions que j'ai avec les jeunes autour de moi, en fait, ils s'intéressent beaucoup à la politique. C'est pas parce qu'ils ne vont pas voter qu'ils ne s'y intéressent pas.
Non. Et quand l'enjeu les intéresse beaucoup, ils y vont voter. On n'a rien qu'à voir le 93,5% de vote à l'élection, au référendum de 1995.
Oui.
C'est pas juste les vieux qui sont allés voter.
Non, en effet.
Les jeunes sont allés voter aussi.
Vous diriez en fait que les enjeux politiques qui intéressent les politiciens, ce sont pas les enjeux qui intéressent les jeunes.
Ben, en tout cas, c'est des enjeux qui sont je dirais qu'ils transcendent les réalités locales d'une certaine façon. Les enjeux de l'écologie, par exemple.
Oui, l'environnement.
L'environnement, ça oui. les intéresse beaucoup.
Oui.
Les questions internationales, on a eu des sorties dans la rue contre la guerre en Irak. Hein?
Tout à fait, oui.
Oui.
Oui, puis c'est souvent des jeunes.
Souvent des jeunes qui étaient à la tête ou qui entraînaient leurs parents à sortir avec eux autres. Les grandes questions, dans le fond, intéresse
C'est ce que je voulais vous demander. Vous avez fait du qualitatif, je pense, justement là-dessus.
Oui.
Est-ce que les jeunes vous ont répondu lorsque vous leur avez demandé quels enjeux politiques les intéressaient? C'est ça qui est ressorti.
Oui.
Ils s'intéressent moins au local? Ils s'intéressent plus?
Ils s'intéressent au local dans lequel ils sont, quand ils sont bien ancrés dans le local, soit par une organisation, soit par une association, ils vont s'intéresser beaucoup au local et ils vont penser que eux, c'est par là qu'ils peuvent changer les choses, par le local.
OK.
Même si, dans l'enquête qualitative que j'ai faite auprès de militants, ils disaient, au moment, avant même la crise de 2008, ils disaient, il nous faudrait un gouvernement international parce que ça n'a pas de bon sens que tous ces conflits-là, que ça se règle n'importe comment. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un vrai gouvernement international? Il faut que j'ajoute aussi, dans ce qualitatif-là, qu'au début des années 2000, les jeunes disaient, par rapport à la question nationale, on ne sait pas, ça nous intéresse, mais on ne sait pas comment en parler.
Ah oui.
Alors, ceux qui ont fait des études, des projections en disant la question nationale après le référendum de 95, dans tant d'années, à cause de la jeunesse, parce que les jeunes vont vieillir, on va finir par avoir la majorité au référendum. Ce n'est pas ça que nous, on a vu. Même au début des années 2000, pas en 2014,
ça fait déjà,
en 2002,
ça
fait déjà 12 ans de ça. Alors, c'est déjà une cohorte qui est rendue, là, elle, à 30 à 40 ans, parce qu'ils avaient 20 à 30 ans quand on les a interviewés.
Le temps file, il va falloir qu'on conclue. Je vais conclure avec une question plus large. Je vais vous demander, pour vous, Vous connaissez les jeunes, vous connaissez ce qui est propre à la mentalité des jeunes. Comment on pourrait... est-ce que c'est le système politique qui fait que les jeunes... Est-ce qu'il y aurait moyen de ramener les jeunes vers une action politique?
Je pense que ça... Il va falloir beaucoup y réfléchir et faire des expériences. Ce que les observateurs, là, d'autres chercheurs, d'autres travaux que j'ai consultés observent, c'est que les jeunes voudraient une démocratie qui soit plus participative. Alors que le vote, c'est clairement la démocratie représentative, hein? Oui. On vote son représentant, oui. son député, pour aller défendre ses intérêts oui. et ses points de vue.
Oui, on remet, dans le fond, notre capacité décisionnelle dans les mains d'un représentant qui va prendre les décisions pour nous.
Exactement. Alors, oui. comment cela pourrait-il se faire qu'on soit appelé à être davantage participant des décisions qui se prennent? Oui. Bien, je pense qu'il y a des gouvernements là, qui font l'expérience des commissions parlementaires. C'était toujours assez étonnant de voir oui. combien. Mais c'est souvent des groupes organisés, institués qui vont aller faire une représentation dans un... les jeunes, je pense, voudraient aller au-delà... donne un statut peut-être aux médias de communication que sont Internet et les Facebook et etc. Peut-être que à travers toutes ces discussions là, ils aimeraient qu'il y ait des choses qui aboutissent oui. jusqu'aux représentants. Alors eux, ils sont à la recherche d'un représentant qui pourrait peut-être être un interlocuteur.
Oui.
Mais comment oui. ça pourrait se faire? Là, c'est intéressant de voir, par exemple, la boussole. Là. Bon, il y a des moyens là, comme ça qui sont en train, tranquillement, de se mettre en place, d'émerger.
Oui. Oui.
Et c'est peut-être une... En tout cas, il y a certainement beaucoup de voies d'avenir auxquels les jeunes en ce moment, je le souhaite de tout mon cœur et je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver à proposer des voies nouvelles de participation.
Bien, merci beaucoup. C'est un message d'espoir pour la sphère politique. On a toujours l'impression que tout ça est en perdition, mais là, on voit que donc il y a de l'avenir pour les jeunes en politique.
Certainement.
Je vous remercie beaucoup, Madame Madeleine Gauthier.
Ça m'a fait bien plaisir.
Alors, on est de retour en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste. C'était Madeleine Gauthier, donc de l'INRS. Il me reste quelques minutes avant de recevoir mon prochain invité et je pense que je vais vous lire un petit extrait d'un article de la revue À Bâbord, parce qu'en fait, c'est le Salon du livre qui va commencer en avril à Québec. Et en l'honneur du Salon du livre, je vais vous lire un extrait donc d'un article de Marc Fortier qui s'appelle « Ragoût de culture ». Je sais qu'on peut aisément confondre Éric Duhaime avec un chaudron. Et je pourrais démontrer sans coup férir que son essai « Libérez-nous des syndicats » est du manger mou pour l'esprit. Il était tout de même étonnant de le retrouver en compétition avec « La mijoteuse de la lasagne à la crème brûlée » de Ricardo pour le prix du public du Salon du livre de Montréal 2013. C'est « La mijoteuse » qui a remporté le concours. Dans l'improbable catégorie « Essai, livre pratique ». Cette cuisante défaite de l'essai contre la lasagne est-elle un sinistre présage? Est-ce le signe que l'avenir de Montaigne et Pascal se trouve dans le rayonnage des grilles peints et des tondeuses à gazon? C'est à craindre si l'on soumet l'économie du livre au joug des grands monopoles commerciaux. Le lecteur consommateur, pour ceux et celles qui l'ignorent, est une bête qui habite la jungle des Costco et des Walmart. Elle y chasse les bas prix en troupeau. L'animal se nourrit pour l'essentiel de guides de loto, de livres de recettes et de romans de gare. Et dans son échelle de valeur, il n'y a pas de petite économie. Les grandes surfaces, conscientes des habitudes du lecteur consommateur, se servent du livre comme produit d'appel. Elle l'appâte, ainsi pour ensuite lui vendre du papier de toilette, du savon ou du fromage, un peu comme le chasseur laisse des pommes au sol pour piéger le chevreuil qu'il mangera ensuite en sauce. Le lecteur consommateur, à l'instar du chien de Pavlov qui salivait au moindre son de cloche, s'agite à la vue du rabais. Chez lui, le réflexe s'est substitué à la réflexion. Il n'agit pas, il a des comportements. Il est l'antithèse même d'un être de culture. On peut donc s'étonner de l'insistance avec laquelle les libéraux, les caquistes et certains chroniqueurs se portent à sa défense, voire l'érigent en figure totémique de notre vie commune. Alors, c'était un article de Marc Fortier que vous pouvez aller lire dans la revue À Bâbord. C'était en l'honneur du Salon du livre. Et ça prépare quand même un petit peu notre prochain sujet qui va être le mot festivus en compagnie d'Adrien. On va écouter une pièce de Michel Fugain qui a été écrite au début des années 70, mais qui me semble assez bien représenter notre prochain sujet. À tout à l'heure.
Changé ce matin, je n'y comprends rien.
C'est la fête, la fête.
Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis.
C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré a ressuscité.
Alors, c'était la fête de Michel Fugain. Alors, c'est la fête pour Michel Fugain et pour Philippe Murray, c'est même devenu un mode de vie, la fête. Philippe Murray a écrit de nombreuses chroniques qui ont été publiées dans différentes revues françaises, entre autres dans Revue des Deux Mondes et dans Marianne. Ces chroniques ont été reprises au théâtre par Fabrice Luchini en 2010. Et on peut dire sans exagérer que Philippe Murray était un farouche adversaire de notre monde moderne. Alors, tout à l'heure, en compagnie d'Adrien, on va tenter de cerner un petit peu le concept de Homo Festivus. C'est un concept qui a été pensé donc par Philippe Murray et qui décrirait ce qu'il appelle le citoyen moyen de la post-histoire. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'un individu plutôt urbain et bien pensant, c'est-à-dire qui fait la promotion du vélo, de la course à pied et de la santé en général, et pour qui le divertissement, c'est un objectif de vie, c'est même une finalité. Ce serait un peu comme le cousin du bobo, le bourgeois bohème du plateau popularisé par Marc Labrèche, et du globe-trotter qui fait du tourisme d'aventure. Alors, je vais vous lire un extrait donc des chroniques de Philippe Murray pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que c'est que la société hyper festive. Hyper festive peut être appelée cette civilisation parce que la festivisation globalisée semble le travail même de notre époque et sa plus grande nouveauté. Cette festivisation intensive n'a plus que de lointains rapports avec le festif d'autrefois et même avec la déjà vieille civilisation des loisirs. Le festif classique et localisé, comme le festif domestique, assuré plus récemment par la télévision, sont désormais noyés dans le festif total ou hyper festif, dont l'activité infatigable modifie et transforme sans cesse les comportements et l'environnement. Dans le monde hyper festif, la fête n'est plus en opposition ou en contradiction avec la vie quotidienne. Elle devient le quotidien même. Tout le quotidien et rien que le quotidien. Il ne peut plus en être distingué. Toutes les fêtes d'aujourd'hui se situent au-delà des fêtes. L'univers hyper festif est très précisément celui où il n'y a plus de jour de fête. C'est aussi celui où disparaît cet abandon festif au principe de plaisir qu'était l'usage de l'humour, de la drôlerie, du mot d'esprit, du rire critique, du non-sens, des diverses formes de l'esprit de problématisation. L'univers hyper festif est celui où toute plaisanterie se trouve plus que jamais guettée par le vautour vertueux. L'existence actuelle doit être aimée en tant que telle. Et il devient même interdit de ricaner de soi. La société hyper festive est une société où l'on ne rit pas parce que c'est un monde où l'on combat fièrement et sans relâche. Et l'on combat tellement de choses, en fin de compte, que l'on n'a même plus besoin de dire de quoi ou pourquoi. Lutter et combattre sont des intransitifs heureux et des impératifs célibataires. Et des optatifs solitaires, et des monades disciplinaires. Il ne leur manque rien. Ou, ce qui leur manque, ils s'en passent très bien. Dans ce domaine comme dans tant d'autres, la finalité est une question que l'on ne saurait plus poser sans impertinence. Alors, je vous laisse un petit peu méditer sur ces extraits des chroniques de Philippe Meury. On va écouter une pièce qui a été choisie par Adrien. C'est une pièce qui s'appelle La Folia, qui est une pièce folklorique assez ancienne, et on va écouter une interprétation de Vivaldi. Ensuite, il y a Adrien qui va venir nous faire une lecture. Il va nous faire une adaptation du concept de mot festivus pour le Québec. À tout de suite. va écouter Adrien qui va nous faire une lecture d'un texte qu'il a écrit, une adaptation donc du principe de Homo Festivus pour le Québec. On vous écoute.
Alors Catherine, on vient d'entendre la pièce de Vivaldi,
oui.
La Folia.
Oui.
C'est la folie qui parcourt le monde et s'empare des esprits. Alors, c'est un beau thème qui nous introduit à notre sujet de ce soir, qui est justement l'Homo Festivus. L'Homo Festivus a été un thème qui a été traité par Philippe Murray, comme on le mentionnait tout à l'heure. Et moi, j'ai décidé d'en faire une adaptation pour le Québec.
Mm-hmm.
Alors, j'ai rédigé un petit texte que je vais lire pour le bénéfice de nos auditeurs. C'est que le sujet abordé par Philippe Murray, qui est l'Homo Festivus, il se trouve à dresser un portrait sans concession de notre temps, qu'il qualifie d'ère hyper festive. La multiplication des fêtes, des réjouissances publiques, des foires populaires. En d'autres mots, les multiples occasions de divertir la population représentent un trait saillant de notre époque. Dans un monde tourmenté où l'avenir demeure incertain, un monde où l'angoisse nourrit la contestation et la violence, la fête devient un moyen d'endormir les consciences et d'inhiber les énergies sociales. Elle fait partie du jeu de la politique et conduit immanquablement à la politique du jeu. Cette situation n'est pas particulière à la France. Le Québec présente aussi l'image d'une société infantilisée, où le burlesque et l'amusement font partie du paysage politique. Si l'on a parfois parlé de société du spectacle pour qualifier notre monde, c'est que la fête se déroule essentiellement sur la scène publique et que nos élites politiques, relayées par les médias, en sont les organisateurs. Autrefois, les rois faisaient appel à des bouffons pour se divertir. De nos jours, ceux qui nous gouvernent se comportent eux-mêmes en bouffons. Ces comédiens ratés sont devenus des amuseurs publics. À cet égard, les exemples ne manquent pas. Nous avons à Québec un maire qui fait peuple et joue à fond la carte du populisme. Tablant sur les vertus lénifiantes du sport, M. Labeaume a décidé d'offrir à sa population un amphithéâtre. À défaut de pain, le bon peuple pourra toujours s'amuser. L'euphorie sénile des masses est politiquement rentable. Sous ce rapport, M. Labeaume se révèle un habile comédien et un personnage éminemment festif. Mais il n'est pas le seul, loin de là, à assurer le triomphe du festivisme. La création des loteries et casinos par l'État fait aussi partie de l'univers festif. Le jeu est alors utilisé à des fins de pure manipulation. Il sert à exciter les passions des citoyens afin de leur soutirer de l'argent. Nos honnêtes politiciens ne répugnent pas à cautionner un pareil procédé. Pour eux, les jeux d'argent font partie de la culture bienfaisante et festive, au même titre que les merveilles numériques et les jeux vidéo. Nous vivons véritablement dans un monde enchanté, où l'Homo Festivus ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui tombe de la bouche des diffuseurs. Avouons que nous sommes vraiment choyés. Nous avons en Québec la chance d'avoir de grands médias et une presse de qualité. Richard Martineau et ses émules du Journal de Québec nous informent quotidiennement en nous divertissant. N'est-il pas merveilleux de pouvoir ainsi concilier la culture avec le plaisir? Ceux qui trouvent cette prose trop intellectuelle peuvent toujours se tourner vers l'écran du bonheur ou encore se rabattre sur les radios X où les attendent les rockstars de l'information. L'Homo Festivus québécois n'a donc aucune raison d'être déprimé, car le bonheur se trouve à la portée de sa main. La souris informatique et la télécommande sont en effet de merveilleux antidotes à l'angoisse. Ils nous transportent dans le monde séduisant du virtuel et de la télé-réalité, un monde où la politique se confond avec le sport et l'humour avec l'imbécilité. L'homme hyper festif aime se mirer dans son petit écran. Il se plaît à tout ce qui est dérisoire et risible. Le rire est la santé des nations. Un peuple qui s'amuse est un peuple politiquement heureux.
Merci beaucoup, Adrien. Il y a David qui vient de se joindre à nous. Oui, à bonne main d'applaudissements ici pour Adrien. Bonjour, David.
Oui, bonjour, Catherine. Bonjour, Adrien.
Bonjour,
Adrien. Si je comprends bien, Adrien, ce que vous nous dites, en fait, c'est que les hommes politiques sont des parfaits exemplaires de l'homo festivus.
Tout à fait, Catherine. C'est que la politique est devenue une sorte de jeu. Et les élites politiques entrent dans le jeu et font le jeu de la politique qui devient une politique du jeu.
Oui.
Alors, tout ça est très bien, vous savez, là. Nous vivons dans un monde merveilleux, un monde enchanté, et nous n'aurions aucune raison de nous plaindre.
C'est le spectacle. Qu'est-ce que tu en penses, David?
Ben, j'ai envie de dire j'ai oublié le nom. Ça va avec l'époque, hein. J'ai oublié le nom du maître de Candide dans Voltaire qui disait que tout était pour le mieux.
Dans
le meilleur des
mondes
possibles. Ouais.
Oui.
Pangloss, exactement, merci.
Pangloss.
Ben moi, j'avais trouvé ça méprisant, fait que je vais me taire.
Méprisant? Ouais. Au contraire. Tous ces gens-là existent pour nous faire plaisir et nous divertir.
Oui.
Un peu comme les bouffons du roi.
Oui, j'étais pas là quand le plaisir passait, je crois.
Non, mais si on considère qu'effectivement, le mot festivus est devenu, la norme, il est normal que nos politiciens soient des représentants et participent de ce système. Ils le font pas nécessairement de manière mal intentionnée.
Non, et d'ailleurs, Catherine, il faut dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Oui.
L'homo festivus, ce n'est pas uniquement les petits comiques qui essaient de nous distraire au Parlement, mais ils sont dans beaucoup de maisons aussi. L'homme québécois est aussi un homme très festif et qui apprécie beaucoup ce jeu de la politique.
Oui.
Et nous sommes actuellement en pleine période...
En pleine période électorale.
De campagne, c'est-à-dire oui. où la loterie électorale bat son plein.
On ne sait pas trop comment dire ça, mais on a vraiment l'impression que les prochaines élections vont être une loterie.
En fait, moi, j'ai très hâte.
Les sondages ne sont pas très clairs.
J'ai très hâte à la soirée des élections, qui est encore plus intéressante que le hockey.
Oui. On verra. Pour revenir à le mot festivus de Philippe Murray, merci beaucoup, Adrien. C'était intéressant de voir comment la classe politique pouvait participer de ce même concept de mot festivus. Mais pour élargir le concept, Philippe Murray parle de la manière dont le jeune occidental se comporte en tant que touriste sur l'ensemble de la planète. Puis, si vous voulez, je vais lire un autre extrait de ses chroniques qui porte justement sur ce comportement-là de joyeux touriste. Quand il ne fait pas de ski à travers Paris, Homo Festivus va se promener en moyenne montagne avec ses raquettes et déclenche une coulée de neige qui, dans un bruit de cauchemar, dégringole pour l'engloutir. Ou bien, il participe, dans un petit port de pêche quelconque, à une fête de la mer qui se termine en naufrage. Lorsque ce n'est pas son camping qui se retrouve noyé sous un torrent de boue. Toutes ces horreurs n'ont rien de drôle. Mais ce qui est singulier, c'est l'air de stupéfaction infinie. C'est l'expression de douloureuse surprise de mon festivus chaque fois que la nature lui joue un de ses tours. La montagne serait méchante, l'océan dangereux. Les rivières peuvent grossir jusqu'à devenir des fleuves mortels. Même la recherche systématique des responsabilités, les mises en examen, la traque des coupables ne consoleront jamais Homo Festivus de ce genre de trahison. Il n'y a qu'à voir chaque hiver, lors de l'habituelle vague de froid, qui se débrouille en général pour coïncider avec les vacances de février, tous ces gens bloqués sur les autoroutes, naufragés, coincés dans des trains arrêtés et stigmatisant la négligence des autorités pour comprendre qu'en fait, derrière toutes ces accusations, c'est la pensée magique qui est de retour avec l'air hyper festive, même si les termes dans lesquels elle s'exprime ont un peu changé. On ne danse plus pour faire tomber la pluie ou la convaincre de cesser, mais on cherche les responsables s'il y a du verglas et on les lyncherait volontiers si on les avait sous la main. Alors cet extrait, moi, ça me fait penser, entre autres, aux amateurs de surf qui, depuis quelque temps, exigent l'extermination des requins parce que ils peuvent pas pratiquer leur sport tranquille sans que la nature, effectivement, leur joue un mauvais tour. Et c'est peut-être ce type de comportement, moi, chez le mot festivus, qui m'interpelle davantage.
Quelle idée charmante, hein? Vraiment. Détruire les requins pour faire de la planche à voile?
Ben pourquoi pas?
Il fallait y penser. C'est vraiment excellent.
Je dis qu'on devrait aussi tout raser, les forêts, les garde-fous, tout ce qui ferait un obstacle à la vitesse des voitures.
Moi-même, j'ai déjà proposé de faire un champ de blé avec la ville de Montréal. Vous vous rappelez, Catherine, hein?
Oui.
Alors, c'est une promesse électorale qui pourrait être tenue, ça.
Malheureusement, ça peut être retenu. Ce serait bien un champ de blé avec la ville de Montréal.
Ah, ce serait extraordinaire.
On va laisser aux gens de réfléchir sur tout ce qu'on vient de dire. Il y a des élections qui s'en viennent. Peut-être que ça va leur inspirer un vote en faveur de on ne sait pas quoi, mais une inspiration quelconque pour les élections de lundi.
Est-ce qu'un dernier mot du côté de...
Ben, j'ai comme envie de lire... c'est un peu... Ben, en fait, c'est à propos. Et ça nous fait penser bizarrement à nos élections, mais c'est sur
on
le
a,
point.
On a 30 secondes, David.
30 secondes, je vais lire ça... Ah non, ça ne vaut pas la peine. Laissez faire.
Non, mais tu peux en lire un petit peu. Mais,
OK.
Mais,
alors,
une minute, combien t'es reste?
Vous allez voir, c'est super à propos. L'élitocrate a une bête noire, le plouc émissaire. Et quand celui-ci a le malheur de dire merde à l'élite, par exemple en votant non lors d'un référendum à propos de l'Europe, l'élite perd d'abord sa belle humeur, se montre folle de rage, puis décide qu'il faut encore plus d'Europe. Que sa propagande auprès du plouc émissaire a souffert d'un déficit de communication et qu'on va aller toujours plus de l'avant parce que ce nom du plouc, au fond, ça voulait certainement dire oui, mais comme il ne sait pas très bien parler, il s'est trompé de mots et il a dit merde en pensant oui et en votant non. Voilà, on dirait... Ouais, voter pour la CAQ, c'est donner un vote au PLQ ou je sais pas quoi. Alors voilà.
Merci pour le commentaire politique. Merci David, merci beaucoup Adrien.
Merci Catherine.
On va dire bonjour aux auditeurs. Je termine moi sur une phrase de Philippe Meuré. Ce devant quoi une société se prosterne nous dit ce qu'elle est. Alors, merci à Gab Paquette pour la musique thème de l'émission, à David, notre libraire et notre hôte à sa librairie de la rue Saint-Jean, à mes invités Simon Richard, Madeleine Gauthier et Adrien Dugas, à mon équipe Anaëlle à la mise en onde et à Big Nick, le producteur de l'émission et grand manitou du site web Radio Fiat Lux. C'était La Voix de la librairie Québec.
Vous m'avez comme laissé sans...